Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre émission d'histoire locale. Une émission qui vous plaît, je pense, de plus en plus. On a commencé au mois de septembre, on a fait une émission sur l'archéologie, ensuite on a parlé de l'histoire du protestantisme en Beauce, et puis ce mois-ci, on va parler de la guerre de 1870. On commémore cette année le 150e anniversaire de ce conflit. Donc il y a eu plusieurs événements autour de ce sujet. Et aujourd'hui, j'invite sur Radio Vague Jérôme Coutadeur. Bonjour Jérôme.
Bonjour Régis, bonjour aux auditeurs.
Alors donc Jérôme Coutadeur est un historien militaire, spécialisé sur les conflits 1914-1918. Donc je vous rappelle qu'il y a eu toute une série de commémorations entre 2014 et 2018. Donc Jérôme a eu l'occasion de faire beaucoup de conférences. Il a publié un ouvrage sur les poilus de sa commune de Neuville-aux-Bois. Et puis il est spécialisé aussi sur le conflit de 1870. Donc il va nous en parler un petit peu. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce conflit de 1870 qui est, on va dire, méconnu, oublié, et donc là, le 150e anniversaire, c'est l'occasion justement d'en parler un petit peu plus. Quel sujet on peut aborder autour de ça ?
Alors, merci Régis de me permettre de vous communiquer en fait mon intérêt pour cette guerre de 1870 qui effectivement, comme vous le disiez, est notoirement inconnue de nos contemporains, malgré que ce soit un conflit important pour la suite des événements. Pourquoi s'intéresser à la guerre de 1870 et surtout dans le Loiret, parce que moi, mon intérêt, Régis le soulignait, je suis historien, mais historien amateur, attention, j'ai un intérêt particulier pour la grande histoire liée à notre petite histoire. Et j'aime bien faire coïncider la grande histoire avec notre petite histoire.
Ça tombe bien, parce que c'est ce qui nous intéresse, finalement.
Exactement. Et c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, de voir comment on peut s'imbriquer notre petite histoire locale dans la grande histoire nationale, voire internationale.
Et donc, ce qu'on va voir, c'est que finalement, la guerre de 1870, sur le plan local, Loiret, Beauce, il y a eu énormément de choses qui se sont déroulées, on ne le sait pas forcément. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui.
Absolument. Et j'oserais même dire que, malgré que cette guerre soit notoirement méconnue, comme je le disais précédemment, par nos contemporains, on garde dans le Loiret, dans la région centre, au nord de la Loire, on va dire, pour faire simple, en Beauce, en forêt d'Orléans, on garde quand même un petit peu cette mémoire de la guerre de 1870, et j'en prends pour preuve quelques articles qu'on peut voir dans la République du Centre, par exemple, ou dans le Courrier du Loiret, qui traite de quelques commémorations, on va en parler plus tard, mais donc cette guerre de 1870 garde quand même dans la région centre un petit intérêt, et les gens s'en souviennent, surtout nos anciens. Je me souviendrai de ma grand-mère qui, quand elle parlait des Allemands, parlait des Prussiens. Voilà, il y a quelques dizaines d'années, mais voilà. Et donc, le but de notre conversation d'aujourd'hui, c'est de dire comment se fait-il que la guerre de 1870 ait pu arriver chez nous, dans le Loiret et au nord de la Loire. Comment ça s'est passé ?
Ok. Donc, on commence peut-être par une petite chronologie. Comment tous ces événements, ces incidents au départ, qui se sont transformés en accidents diplomatiques, on va dire, comment tout ça s'est enchaîné ? Donc, on va commencer sur le plan national, effectivement, pour passer ensuite sur le plan régional et local.
Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on en est arrivé à combattre sur la Loire, à Artenay, à Chevilly, à Neuville-aux-Bois, à Orléans, à Loigny-la-Bas, à Beaune-la-Rolande, sans comprendre comment on en est arrivé là. Parce que sinon, c'est incompréhensible. Alors, on va faire un petit saut en arrière. Je ne vais pas revenir sur les circonstances du déclenchement de cette guerre, parce que sinon, ça va nous prendre toute l'après-midi. Hein, mais on va dire qu'en juillet 1870, la guerre est déclarée, la France déclare la guerre à la Prusse, qui elle-même est alliée à tout un tas d'États allemands réunis dans ce qu'on appelait la Confédération du Nord de l'Allemagne, donc tout un tas de petits États fédérés. Et en fait, on était... La cause de cette guerre, c'est un incident diplomatique que le Premier ministre, le chancelier allemand Bismarck, a monté en épingle, je ne rentre pas dans les détails, pour amener la France sûr de son prestige et sûr de sa force, a déclaré la guerre à la Prusse.
Ça, c'est important peut-être à signaler, c'est que finalement, la France a été considérée comme le pays agressif, puisque c'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne et non l'inverse.
Absolument. Ouais. On a été amené par diverses manœuvres qu'on pourrait expliquer, mais qui nous entraîneraient trop loin, à déclarer la guerre à la Prusse. Et l'idée derrière de cette déclaration de guerre, pour le chancelier Bismarck, c'était abattre la puissance française qui était la première puissance européenne, hein, on ne parle pas des Anglais qui sont, eux, une puissance maritime, mais d'abattre la France, la grande France impériale, et surtout de pouvoir, autour de cette guerre, autour d'une victoire probable de l'Allemagne, de la Prusse, de créer un grand empire allemand. D'accord. C'est ce qui va se passer à la suite de cette guerre où de la Prusse et de ses États fédérés, on va se retrouver sur l'empire allemand.
Donc en fait, Bismarck n'attendait qu'une chose, exactement, c'était que la France déclare la guerre à la Prusse. Hein.
Et il nous a manœuvré, à part la fameuse dépêche d'Ems, à cause de la presse française qui s'est empressée de tirer à boulet rouge et de monter la population en épingle pour que cette guerre nous paraisse à nous Français comme nécessaire et utile. Et cette guerre s'est déclarée donc en juillet 1870. La France est partie en guerre sûre de son fait, et on verra dans les semaines qui suivent que l'armée française n'était absolument pas préparée, militairement parlant, bien que le maréchal Lebeuf ait dit qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre, célèbre phrase qui était ô combien prémonitoire de ce qu'allait se passer, puisqu'il manquait plein de boutons de guêtre, justement.
Et c'était un petit peu comme en 14, finalement, on est parti en chantant à Berlin, etc.
Oui, alors je ne ferai pas trop le parallèle, parce que justement, pour une fois, je pense que la France avait pris la mesure de ce qui s'était passé, elle avait appris, et l'armée française de 1914 était beaucoup mieux organisée, que la mobilisation s'est faite en 1914 d'une façon assez formidable, alors que la mobilisation de 1870, c'est une catastrophe. Les régiments qui étaient à un bout de la France, alors que les soldats étaient à l'autre bout, les réservistes qui étaient rappelés dans des régiments, il fallait qu'ils partent au dépôt, qui étaient à Lille pour retrouver le régiment qui était à Marseille, une catastrophe.
Et c'était pas du tout une armée uniquement professionnelle.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, alors il y avait une base de militaires de carrière qui faisaient leur service militaire, des réservistes, et puis une partie qui va devenir très importante dans la partie justement républicaine de la guerre et donc de ce qui va se passer dans le Loiret, c'est l'apport de ce qu'on appelait la garde nationale mobile, qui est en fait une création qui est de juste avant la Première Guerre mondiale, la guerre de 1870, l'APSUS, et qui n'était pas, absolument pas organisée en 1870, mais c'était une idée de pouvoir créer, à l'instar de la Landwehr allemande, une espèce de grosse réserve nationale, mais cette garde nationale mobile, dont je reparlerai plus tard, n'était pas absolument pas organisée, mais c'est sur elle que s'est basée la quasi-totalité de nos troupes dans la deuxième partie.
Okay. Ce que vous venez d'expliquer là un petit peu, c'est que finalement, il y a eu deux périodes dans cette guerre de 1870, avant la défaite de Sedan et après la défaite de Sedan.
Chronologiquement, je vais en parler, mais effectivement, il faut scinder, pour simplifier cette guerre, deux parties qui ne sont absolument pas les mêmes. Voilà. La partie, ce qu'on appelle impériale, jusqu'à la défaite de Sedan, et la partie républicaine, entre la défaite de Sedan et la capitulation en 1871. Et donc, pour revenir à la chronologie, la guerre est déclarée, mobilisation, donc les troupes se retrouvent de part et d'autre du Rhin. L'armée française se rassemble en Alsace et en Lorraine. La quasi-totalité des troupes françaises disponibles se retrouvent en Alsace et en Lorraine, et de l'autre côté, les Allemands se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière.
Donc c'est la guerre des frontières, finalement.
Alors, c'est la guerre des frontières. Voilà. La seule différence, c'est qu'on a un commandement qui est absolument inepte, d'officiers d'état-major réels, des maréchaux et généraux commandant les corps d'armée qui, parfois, ne s'entendent pas, qui prêchent pour leur propre paroisse, qui sont très individualistes. Pas d'état-major général. Le commandement de l'armée est assuré par l'empereur, qui est malade, puisqu'il a des gros calculs rénaux, et il peut quasiment pas. Puis, faut être honnête, malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, l'empereur Napoléon III, c'est pas son oncle, c'est pas Napoléon Ier. Et donc, militairement parlant, c'est compliqué. Alors que de l'autre côté, on a une organisation à l'allemande. Trois armées extrêmement bien organisées, un état-major général, l'empereur Guillaume ne commande pas en chef puisque c'est le maréchal von Moltke qui commande les troupes allemandes, avec des états-majors d'armée, des corps d'armée. Alors nous, on a des corps d'armée, mais on n'a pas d'armée. Donc c'est une espèce de gros ver sans ossature qui va aller sur la frontière. Et tout de suite, c'est-à-dire dès le 2 août 1870, la température est prise. C'est-à-dire qu'un corps d'armée français, le deuxième corps d'armée, est battu le 2 août à Wissembourg. Je suis en train de réfléchir parce que il faut que je reprenne la chronologie. J'ai parfois un petit peu de mal avec cette chronologie.
Wissembourg, et puis après on va parler de Gravelotte.
C'est un petit peu plus tard. Mais les deux premières batailles qui sont les batailles de Wissembourg et de Spiekeren, à côté de Forbach. Alors c'est le 2 et le 4, c'est Forbach et Spiekeren. Et il y aura donc cette bataille de Wissembourg. Et là, des unités françaises esselées. Non soutenus par leurs camarades des autres corps d'armée. Le maréchal de MacMahon, par exemple, qui commande le premier corps d'armée, ne va pas soutenir le deuxième alors qu'il est à quelques kilomètres. Et donc ces deux batailles, donc le 4 et le 6 août 1870, sont des désastres absolus pour l'armée française. Mais ce n'est pas encore des batailles décisives. Donc les Français, battus deux fois, une fois en Lorraine et une fois en Alsace, doivent se replier. Et là va se produire en fait une scission de l'armée française, puisqu'une partie de l'armée va se replier vers Châlons en Champagne, va quitter l'Alsace donc et pour se replier, et l'autre partie va se replier vers Metz. Alors la partie alsacienne, on va dire, qui était commandée par le maréchal de MacMahon, est battue une deuxième fois le 6 août dans la grande bataille de Froschwiller-Wörth, là où va se passer la célèbre charge des cuirassés de Reichshoffen. Mais à Reichshoffen, il ne s'est rien passé, comme souvent, mais donc ça serait trop long de raconter cet épisode. Mais la bataille de Wörth-Froschwiller est une défaite épouvantable. Le premier corps d'armée et une partie du 7e corps d'armée sont battus à plat de couture. Le fait que les Allemands sont deux fois plus nombreux que les Français, par le fait que leur artillerie est supérieure à la nôtre, malgré nous, notre supériorité dans le courage de nos soldats, ça a été reconnu, nos soldats se sont battus courageusement avec une arme individuelle qu'on appelle le fusil chasse-pot, qui a une supériorité par rapport au fusil allemand de la même époque, et ça nous donne une vraie supériorité de l'infanterie. Mais la supériorité ultime, outre le commandement, c'est vraiment l'utilisation de l'artillerie.
Les canons.
Les canons. Et les canons ont toujours fait la différence partout, depuis le début.
C'est l'industrie prussienne, finalement.
Pas forcément. C'est aussi une question d'industrie, de technique, mais c'est aussi une question d'utilisation. Ouais. On n'utilise pas l'artillerie tactique, de la même façon. Tactique, exactement. Et cette supériorité de l'artillerie va jouer dans toutes les batailles, depuis le début, jusqu'à Loigny-la-Bataille, jusqu'à Coulmiers, jusque dans le Loiret, tout le temps. Donc, pour revenir à notre propos, donc, une fois la bataille de Froschwiller perdue, le maréchal de MacMahon se replie jusqu'à Châlons-en-Champagne pour se réorganiser dans le grand camp de Châlons, le camp militaire de Châlons qui existe encore, et qui était le grand camp de bataille, le grand camp de manœuvre de l'armée française. L'autre partie a été donnée, l'empereur a enfin décidé de léguer son commandement puisqu'il ne s'y sentait plus capable, et donc il va confier l'autre partie de l'armée au maréchal Bazaine, un héros de la guerre du Mexique, mais qui a, pour ses collaborateurs, on va dire, pour les autres généraux et maréchaux, il a une grave infirmité intellectuelle, c'est qu'il est issu du rang. C'était un simple soldat. D'accord. Et ça, les autres ne supportaient pas qu'un soldat issu du rang, ayant gravi tous les échelons, prenne le commandement de l'armée. Donc l'empereur s'en va. Il rejoint MacMahon à Châlons et le maréchal Bazaine donc se replie vers Metz. Et là, normalement, l'idée c'était de traverser Metz et de rejoindre MacMahon à Châlons pour regrouper toute l'armée et reprendre l'offensive. Et à ce moment-là, le 14 août 1870, la queue de l'armée française est rattrapée à Borny, dans la banlieue est de Metz, et le maréchal Bazaine va faire face. Borny sera un match nul, on va dire, mais ça va contraindre cette partie de l'armée à rester à Metz et de perdre du temps, 2 jours. 2 jours qui vont être pris pour traverser Metz. Pendant ce temps-là, les Allemands vont contourner Metz par Pont-à-Mousson, par le sud, et ils vont se retrouver à l'ouest de Metz. Donc le maréchal Bazaine, lui, va prendre la route pour aller jusqu'à... pour rejoindre Châlons, mais dans sa route, le matin du 16 août 1870, il est confronté à l'armée allemande qui remonte à Gravelotte. Ah, enfin, d'accord. Voilà, on y arrive.
Arrive à Gravelotte.
Pas tout à fait à Gravelotte, mais en fait à une bataille qu'on va appeler la bataille de Rezonville-Mars-la-Tour. Donc une grande bataille qui va avoir lieu le 16 août 1870, qui va être un demi-succès français ou un match nul, on ne sait pas bien, enfin, ça dépend, hein, mais qui va contraindre encore une fois l'armée française à rester à Metz et à se réorganiser. L'état-major français va encore perdre 2 jours, et le surlendemain, donc le 18 août 1870, les Français donc, sont attaqués par des avant-gardes allemandes qui se sont regroupées à l'ouest de Metz, et va débuter la grande bataille de Gravelotte-Saint-Privat.
Ok, donc là on est le 18
août. On est le 18 août 1870.
On arrive sur un épisode important de cette guerre de 1870. Ce que je vous propose, Jérôme, c'est de faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Pas de problème. Ok.